La carte Visa Orange Money, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Appel sur l'actualité, deuxième partie, celle du débat. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous parlons ce matin longuement de Boko Haram. 27 000 morts, 2,5 millions de déplacés et réfugiés, plus de 10 millions de personnes ayant besoin d'aide humanitaire selon les Nations Unies. Voilà ce que 10 ans de soulèvements djihadistes ont provoqué au Nigeria et dans les pays voisins. Alors avec vous, nous allons témoigner de l'impact de cette menace terroriste sur les pays de la région. Vous nous racontez les implications quotidiennes, comment vous évaluez la réponse des autorités de votre pays et de vos voisins. On débute avec Emmanuel à Lagos. Bonjour.
Bonjour monsieur, comment allez-vous ?
Ça va, merci. Et vous Emmanuel ?
Ah, je vais très bien, merci.
Alors hier, la présidence nigériane hier, Emmanuel, a affirmé que Boko Haram était vaincu. C'est un message qui vous convainc ou pas du tout ?
Non, je ne suis pas convaincu et je crois que cette administration, elle se verse beaucoup plus dans la propagande. C'est vrai, elle dit qu'elle a défait Boko Haram techniquement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais le fait est que la menace Boko Haram est perceptible partout dans le nord, surtout dans le nord du pays. Et je crois que c'est plutôt c'est comme une succession des échecs des différentes administrations qui se sont succédées. L'administration de Obasanjo l'administration de Obasanjo n'a pas pu empêcher son apparition. Et donc, Yara Doua et Jonathan aussi ont pu voir l'expansion de Boko Haram. Et maintenant, aujourd'hui, l'administration de Buhari, c'est
pour vous, Muhammadu Buhari, le nordiste, n'a pas fait mieux que Goodluck Jonathan, le sudiste.
Bon, en tout cas, à son crédit, on pourrait mettre ça à son crédit que si nous regardons un peu
Emmanuel, on est en train de vous perdre, je suis désolé, la ligne avec Lagos se détériore, peut-être qu'on pourra vous recontacter un petit peu plus tard. On va aller à N'Djamena où nous attend Clément. Bonjour Clément.
Bonjour Monsieur François, comment vous allez ?
Ça va bien, merci Clément. Vous estimez que depuis 10 ans, eh bien, on ne se bat pas avec les bonnes armes contre le djihadisme ?
Mais je pense que non, parce qu'en réalité, la question de Boko Haram, il faut quand même si les spécialistes disent que c'est d'abord une revendication socio-économique de base, mais à la fin, c'est la récupération religieuse. Et donc, cette dimension religieuse aujourd'hui fait que si nous continuons par combattre avec les armes qui sont les militaires, ou bien sûr que les militaires doivent intervenir dans des situations sécuritaires, mais si nous voulons aller loin dans la lutte, forcément pas la lutte, le combat armé contre les djihadistes qui sera le plus important, mais plutôt travailler pour arriver à avoir une voie modérée pour amener ces djihadistes qui pensent à la religion ou qui ont récupéré la religion pour perpétrer leurs actions. Il faut alors travailler au niveau de leur foi. Et là, ça pourrait encore toucher.
Plus de programmes de déradicalisation, de prévention avec les communautés locales ?
C'est exactement ce que je veux dire. Autrement, c'est que si nous continuons soit par marginaliser cette solution, à l'occulter, ben, on trouvera toujours des personnes qui vont croire à cette idéologie et qui vont se repentir. Alors que si on combat l'idéologie, mais on ne combat pas forcément les personnes, ça pourrait porter plus de fruits. À ce moment-là, on pourrait avoir des argumentations, même théologiques, pour arriver à faire comprendre à ceux qui sont appâtés par leur discours, de comprendre que non, on peut regarder la religion autrement, on peut regarder les choses autrement, même si on a des problèmes sociaux.
Est-ce que vous avez l'impression que dans votre pays, le Tchad, il y a eu un progrès là-dessus, en tout cas une prise en compte de cette question ?
Je pense personnellement, oui, un tout petit peu, même s'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. L'aspect militaire n'est pas à négliger. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser les militaires de côté. Je ne suis pas en train de dire, et le Tchad fait un très bon travail côté militaire, mais il reste un grand travail côté, ce qu'on peut dire, civilo-militaire, dans des actions au quotidien auprès des communautés affectées, pour permettre à ce que ces communautés ne soient pas tentées par le discours de ces djihadistes. Pour moi, c'est ça le véritable problème. où aujourd'hui les partenaires du Tchad peuvent intervenir, mais aussi le gouvernement tchadien doit prendre un peu de l'avance pour permettre à ce que ce soit aussi des actions qui soient des actions gouvernementaux.
Merci Clément, en ligne de N'Djamena. On reste dans la capitale tchadienne avec Djiber, bonjour.
Bonjour Monsieur Mazé, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous regardez les dernières années et vous estimez que tout de même beaucoup de choses ont été faites pour faire reculer le mal?
Oui, en effet, ce mal, c'est une calamité sociale. Nous, en 2015, nous avons organisé un forum à Bol dans le chef-lieu de la province du Lac pour intéresser tout le monde en vue de pouvoir, n'est-ce pas, produire un document qui devrait être pris en compte par le gouvernement. Dans ce document, un certain nombre de facteurs ont été mis en exergue pour que, n'est-ce pas, dans le cadre des politiques de développement sociétal, le gouvernement puisse en tenir compte. Évidemment que l'aspect militaire a avancé, les gars font un bon boulot, mais il y a eu aussi un délaissement de l'État, une démission de l'État dans les îles du Lac, c'est ce qui a favorisé l'éclosion de ce phénomène aujourd'hui qui reste encore une grosse épine dans les pieds de nos États respectifs.
Et justement, vous rendez régulièrement dans la région du Lac Tchad, vous êtes originaire de cette région, je crois, et vous n'avez pas constaté de progrès en termes de développement, en termes de vie quotidienne?
Oui, d'abord, un problème de justice sociale qui est absolument criard du côté de cette province. L'administration locale ne fait pas correctement son travail. Moi, récemment, j'ai suivi, n'est-ce pas, la réunion des gouverneurs des États membres du Lac Tchad au niveau de Niamey. Ils ont dit il y a plus de discours que d'actes. Mais s'il y a plus de discours que d'actes, il faut maintenant amener le gouvernement à passer aux actions plutôt qu'à discours chaque jour. Les discours ne suffisent pas. Les discours ne sont pas là pour nourrir les hommes. Aujourd'hui, au niveau du lac, nous avons un flux inimaginable des personnes déplacées, des réfugiés nigériens et toutes sortes de populations qui sont aujourd'hui abandonnées à elles-mêmes, tant bien même que la communauté internationale intervient, mais cette intervention n'est pas absolument suffisante. Les gens sont sortis de leur environnement naturel pour vivre dans des situations extrêmement graves. Donc c'est en cela que moi je pense que le gouvernement doit tenir un langage franc, doit tenir une politique de développement cohérente, intégrée au niveau du lac pour permettre aux gens, n'est-ce pas, de s'intégrer et de pouvoir vaquer et qu'elle ne constitue pas, n'est-ce pas, un vivier pour Boko Haram.
Oui, on rappelle, Djiber, que bien sûr, la pêche, l'agriculture, l'élevage, qui sont les activités de base dans la région, sont les plus impactées par la présence de Boko Haram et les attaques de ces djihadistes. Nous allons maintenant à Niamey. Bonjour Ousmane.
Bonjour Monsieur Rouen.
Alors c'est François, Rouen est en vacances, mais je suis heureux de vous retrouver quand même. Vous allez régulièrement dans cette région du lac Tchad, Ousmane, pour votre travail. Et qu'est-ce que vous voyez quand vous allez là-bas?
Vraiment là-bas, monsieur Rouen, c'est en quelque sorte ce dernier temps, c'est bon, mais auparavant c'était la désolation totale. Mais quand même, actuellement, les différents États sont en train de faire le nécessaire, plus précisément. Dans mon pays, du côté du Niger, vraiment l'État est en train de faire de son mieux. On récupère parce que la plus grande population, les déplacés des populations se trouve du côté du Niger. Maintenant, moi, tout ce que je pense, c'est que la politique, les actions, les différentes actions militaires qu'on est en train d'abattre ce dernier temps-là, c'est vraiment impeccable. C'est surtout de garder le rythme, la méthode d'intervention de ces militaires, de tous les pays frontaliers, tels que le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Nigeria.
Pour vous, la coalition sous-régionale, elle fonctionne?
Ce dernier temps, elle commence à fonctionner. Seulement, il y a un relâchement du côté du Nigeria. Vraiment, moi, c'est là où je veux, parce qu'on a intervenu à plusieurs reprises, on était de l'autre côté, et vous allez voir qu'ils vont venir intervenir de ce côté qu'il y a une action de Boko Haram, mais quand dès qu'après le combat et autres, après un, deux jours, maintenant ils se replient dans les postes qu'ils ont quittés. Mais moi je crois que la meilleure solution, vraiment ils ont, c'est très bien ce qu'on fait ce dernier temps-là, seulement c'est de garder les différentes positions.
En termes de vie quotidienne, l'amélioration dont vous avez parlé, comment est-ce que ça se manifeste? Est-ce qu'il y a moins de blocages sur les routes? Est-ce qu'il y a plus de denrées sur les étals des marchés, plus de monde qui va qu'à ses occupations?
Bien sûr, il y a maintenant ça va. Les gens font des petits leur business un peu dans la région, parce que si vous prenez du côté du Niger, déjà l'État a autorisé une partie de terre à être cultivée. Les gens sont en train de cultiver leur poivron. Auparavant, je vous dis, monsieur Rouen, tous les poivrons qu'on consomme au Niger à 90% proviennent de Diffa. Donc si toutefois on bloque, si toutefois la zone là, là où la culture là est bloquée, ce qui veut dire que la culture de poivrons est bloquée, ce qui veut dire que c'est tout l'intérêt du pays, du Niger qui sera bloqué. Et en deuxième point, les gens là, ils seront sans emploi. S'ils sont sans emploi, ils seront tentés par la secte là et ils vont les rejoindre. Moi je crois que la meilleure solution, actuellement ils sont en train de faire de leur mieux, c'est maintenant d'assurer leur sécurité. La culture là qu'ils sont en train de faire, c'est d'assurer leur sécurité jusqu'à la récolte. Et vraiment, après cette récolte, la récolte de cette année, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Et les gens qui sont sur le point même d'aller à leur rencontre ou bien les rejoindre, je vous assure, M. Roy, ils vont désister et ils ne seront, n'iront jamais là-bas. Et ils vont comprendre que c'était, ils n'auraient pas dû être avec eux ou bien être leurs complices, ils auraient dû les dénoncer. Et à cet instant, ils n'auraient même pas dû durer la secte, le conflit là n'aurait pas duré tout ce temps-là.
Merci Ousmane, vous étiez en ligne de Niamey. On va poursuivre avec un autre témoignage avec Abdoulaye qui est à Maroua dans le nord du Cameroun. Bonjour Abdoulaye.
Oui, bonjour Monsieur François, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Selon vous, le commerce et l'activité sont toujours grandement paralysés hein, malgré les avancées en termes sécuritaires.
Oui, vraiment, l'activité a beaucoup pris de plomb dans l'aile. Donc, vous voyez, nous ici, avec l'avènement des Boko Haram, ça nous a vraiment asphyxiés économiquement. Vous savez, la population ici sont issus de l'agriculture, des pêches et du commerce. Donc maintenant, nous sommes complètement asphyxiés.
Oui, sauf que là, les commerces sont fermés, les pêcheurs ne peuvent plus travailler, la frontière avec le Nigeria aussi est quasiment fermée, ou en tout cas, on passe au goutte à goutte, c'est ça le quotidien?
Oui, bon, pas quasiment fermé, mais maintenant, le corridor Nigeria-Cameroun a été officiellement ouvert, mais sous escorte. Donc, l'activité n'est pas intense comme par le passé où les Camerounais passaient ravitailler du côté du Nigeria. Vice versa, non, c'est pas, c'est maintenant réglementé. Bon, avant, c'est tout le monde, surtout ici à Maroua, la majorité de commerçants s'est ravitaillé du côté du Nigeria. Donc, à tout moment, on peut aller au Nigeria comme on veut, mais maintenant, c'est impossible. Pour aller là-bas, il faut un escorte. Bon, les autorités se sont organisées à faire accompagner les marchandises une fois par semaine.
Donc, il y a une présence militaire très, très renforcée dans le nord du Cameroun, où vous avez accueilli beaucoup de vos voisins nigérians et vous-même à titre personnel, Abdoulaye.
Oui, effectivement. Il y a des réfugiés qui sont venus. Certains sont allés dans le camp de réfugiés de Minawao, qui est officiellement reconnu, et les autres qui ont des parents du côté du Cameroun qui sont venus rester dans la famille. Moi, par exemple, j'ai reçu ma cousine avec toute sa famille, son mari, tout, ils sont là chez moi à Mokolo. Donc, vous voyez, on est obligé vraiment de composer avec eux, de les nourrir avec tout ce que ça comporte. Donc, nous aussi, nous subissons d'une manière ou d'une autre cette insécurité vraiment qui nous a tous déstabilisés dans l'extrême nord du Cameroun.
Merci Abdoulaye pour votre témoignage. Vous êtes à Maroua. Nous retournons à Niamey où est Abdoul Karim. Bonjour.
Bonjour François.
Vous estimez que les populations locales peut-être pourraient coopérer davantage avec les autorités pour leur fournir plus d'informations?
Oui, effectivement, comme je le disais tantôt, il serait très louable en tout cas que la population puisse être vraiment très coopératif avec les différentes autorités. Je veux parler même des forces de défense et de sécurité. Et vous savez, cette secte-là, pour arriver vraiment à son terme, il faudrait qu'il y ait vraiment un travail titanesque. Hein. Déjà, il y a plusieurs mesures, en tout cas, qui sont prises pour combattre la secte Boko Haram, mais cela est insuffisant parce qu'il n'y a pas de coopération en tant que telle. Est-ce que vous voyez? Surtout au sein même des populations, les populations ont souvent peur des représailles, et du coup, et elle ne coopère pas avec les forces de défense et de sécurité, encore moins avec les autorités en place.
Oui, il y a un problème de confiance, hein, véritablement, et c'est le cas dans tous les pays de la région, vis-à-vis des autorités locales et de l'armée.
Oui, absolument. Effectivement, il y a une crise de confiance qui s'est installée, surtout au niveau de nos différentes armées. Au plan politique, on peut dire que ça va, la coopération. Mais en ce qui concerne les différentes armées, ils n'arrivent pas vraiment à parler d'une même voix, à prendre en tout cas des mesures adéquates, des mesures vraiment pour arriver vraiment à mettre hors d'état de nuire cette secte qui a fait plus de 27 000 morts en 10 ans. Elle a fait beaucoup de mal, il y a beaucoup de déplacés, des millions de populations qui se sont déplacées très malheureusement. Et donc vous voyez, aujourd'hui, et c'est même des secteurs sociaux de base qui sont bloqués dans ces différents pays. Hein, l'économie et tout ce qui s'ensuit n'arrive vraiment pas à évoluer comme cela se doit.
Merci Abdoul Karim d'avoir été en ligne de Niamey. On reste au Niger avec Haruna qui est à Abalak. Bonjour.
Oui, bonjour RFI.
Alors Abdoul Karim était en train de nous dire que de nombreux pans de l'économie sont complètement bloqués. C'est aussi ce que vous dites, puisque tous ces investissements qui sont nécessaires dans la sécurité, eh bien forcément ils ne vont pas dans la santé ou l'éducation, et c'est un gros problème pour un pays comme le Niger.
Oui, effectivement, la majeure partie des ressources allouées au secteur de base sociale, en ce qui concerne l'éducation, la santé, les infrastructures, sont
ils sont versés sur les questions militaires et de défense et de sécurité.
Oui, voilà, sont dirigés vers les forces de sécurité, et cela peut avoir un impact sur l'économie du pays. Comme je l'ai dit effectivement, je l'ai dit hier à travers votre
à notre équipe.
Oui. Donc il faut vraiment qu'il y ait une coalition internationale pour combattre Boko Haram. Parce que je ne peux pas comprendre à ce qu'on me dise que ISIS et Daesh, il y a eu une coalition internationale pour combattre Daesh. Et pourquoi pas Boko Haram? Parce que le terrorisme n'a pas de frontières, effectivement. Et nous, les Africains, nous sentons ça, et plus précisément ici au Niger. Avec ces 10 ans de Boko Haram, on a vu beaucoup de gens ont perdu les leurs. L'économie dans la région du Diffa, elle est presque à terre. Effectivement, cela impacte beaucoup sur les ressources mises à la disposition ou bien sur le budget de l'État. Et de l'autre côté aussi, nos amis occidentaux ne nous aident pas. C'est un sentiment général partagé par la majeure partie des Nigériens. Parce que je ne peux pas comprendre à ce qu'on me dise que il y a une base, la France en a une base au Niger, les Américains en ont, et aussi les Allemands en ont, mais le renseignement ne nous vient pas, ne nous parvient pas. C'est un sentiment général de la majorité.
Pour vous, il faut aller plus loin que la coopération actuelle entre les quatre pays voisins du lac Tchad. Il faut vraiment un soutien, une force internationale.
Une force internationale et surtout en matière de renseignement. Parce qu'aujourd'hui, les guerres se gagnent à travers le renseignement. Nous, malheureusement, ce qui nous manque ici au Niger, la coalition ou bien nos amis occidentaux ne nous donnent pas assez de renseignements. Je ne suis pas militaire, mais c'est un sentiment partagé par la majeure partie de nos compatriotes nigériens.
Et en termes de vie quotidienne, quel impact ça a, cette menace terroriste qui continue, selon vous, dans votre quotidien? Est-ce que vous avez des problèmes pour vous déplacer, des problèmes pour trouver certaines denrées, des soucis particuliers?
Oui, quand vous prenez par exemple la région de Diffa, la région la plus touchée, leur économie est presque à terre. Parce que quoi? Cette économie de cette région est basée effectivement sur la culture du poivron, la pêche. Et maintenant, les gens n'ont plus le droit d'aller faire la culture du poivron. Les gens n'ont plus le droit d'aller faire la pêche parce qu'il y a un état d'urgence qui est là-bas dans cette région. Les gens ne circulent pas bien parce qu'à Diffa, il est strictement interdit de circuler à moto. Donc, les gens ne peuvent pas circuler. Tant qu'il n'y a pas de circulation, les gens ne peuvent pas faire échange. Parce que la majeure partie de leurs produits sont écoulés au Nigeria. Or, le Nigeria, on a du mal maintenant avec Diffa. Les gens ont du mal à pénétrer au Nigeria pour vendre leurs produits. Et cela impacte beaucoup sur l'économie de cette région.
Voilà, le commerce interrégional. Merci beaucoup à Haruna. Vous étiez à Abalak sur notre page Facebook. Appel sur l'actualité. Beaucoup de commentaires également, notamment Baba Tirera qui demande à ce qu'on coupe les moyens de financement de Boko Haram. Bombarder quelques djihadistes, c'est comme arracher les feuilles d'un arbre, dit-il. Il faut s'en prendre à la racine. Au Cameroun, Johan.